Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture, à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Lucas Lazo, Emma Lichtenstein, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, à la réalisation Margot Page et à la technique ce matin Alexandre Dang. Cette semaine, Culture Monde revient sur les enjeux des affrontements désormais directs entre l'Iran et Israël. 10 jours après la frappe inédite de l'Iran sur le sol israélien et alors que beaucoup de choses ont été dites sur la gestion plus ou moins maîtrisée de cette escalade, nous tenterons pour notre part de replacer ces événements dans le cadre de la politique d'influence exercée par la République islamique dans la région depuis sa création en 1979. Demain mardi, il sera question du Hezbollah, pris en étau entre sa fidélité à Téhéran et ses réticences à se faire entraîner dans un conflit direct. Mercredi, Julie Gacon reviendra sur les origines du partenariat, tout sauf évident, entre l'Iran et le Hamas. Enfin, jeudi, nous parlerons du soutien apporté aux milices houthis au Yémen. Mais ce matin, Iran-Israël, les limites de la dissuasion.
La défaite du régime sioniste à Gaza se poursuivra et les efforts désespérés comme ceux déployés en Syrie ne les sauveront pas de la défaite. Bien entendu, ils seront également giflés pour cette action.
La nouvelle équation consiste, à partir de maintenant, dans ce que n'importe quelle provocation de l'entité sioniste contre nos intérêts, nos biens, notre peuple ou nos citoyens, n'importe où dans le monde, fera l'objet de représailles depuis le territoire de l'Iran.
Ispahan est totalement en paix. Les gens vivent normalement. 2 ou 3 heures plus tôt, à minuit, des bruits ont été entendus dans le ciel. D'après les informations que nous avons obtenues, plusieurs petits drones volaient dans le ciel d'Ispahan et ont été la cible de tirs.
De petits drones qui volaient dans le ciel, comme ceux, je cite, « avec lesquels jouent les enfants en Iran », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian à propos de l'attaque israélienne du 19 avril sur un site militaire près d'Ispahan. La télévision d'État s'est voulue, elle aussi, rassurante, diffusant les images d'une ville imperturbable et d'un quotidien inchangé. Et pourtant, ce qui vient de se passer entre l'Iran et Israël en ce mois d'avril 2024 est tout sauf anodin. Le 13 avril, ce sont plus de 350 drones et missiles qui ont été tirés depuis l'Iran sur l'État hébreu, une attaque absolument inédite dans l'histoire des deux pays, elle-même riposte à la frappe du 1er avril ordonnée par Tel Aviv sur le consulat iranien en Syrie. Si un relatif apaisement est observé ces derniers jours, que les uns minimisent tandis que les autres se font discrets, ces affrontements désormais ouverts et directs posent de nombreuses questions. La guerre de l'ombre que se livrent l'Iran et Israël depuis des décennies est-elle à un tournant de son histoire? La stratégie iranienne de dissuasion est-elle en train de montrer ses limites? Un changement de doctrine est-il à l'œuvre et qui en sont les architectes? Nous essayerons aussi de comprendre comment l'hostilité à Israël s'est construite au fil du temps en Iran et en quoi elle fait partie de l'identité même du régime grâce à nos invités que je salue. Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, auteur en 2022 de l'Iran, une puissance en mouvement, c'était aux éditions Erol. Et à vos côtés, Wendy Ramadan Alban, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes chercheuse associée au CETOBAK, le centre d'études turques ottomanes balkaniques et centra-asiatique, et déléguée au développement international et institutionnel de l'IRSEM. Votre thèse, la grande stratégie de la République islamique d'Iran, le cas des négociations sur le programme nucléaire iranien, a été soutenue en 2022. Avant d'entrer un peu en détail et en profondeur dans l'historique des relations entre les deux pays, peut-être un point sur la situation 10 jours après l'attaque du 13 avril sur Israël, puis la riposte sur Ispahan le 19 avril, Thierry Coville. Est-ce qu'on peut parler de désescalade, voire d'apaisement? En tout cas, est-ce qu'on a vous avez le sentiment que des efforts sont faits en ce sens?
Je pense que c'est plutôt entre les deux, parce que c'est vrai que ce qui vient de se passer, vous venez de le dire, c'est quand même la première fois depuis la révolution iranienne qu'il y a un affrontement direct entre l'Iran et Israël. Alors, c'est quand même, c'est plus que symbolique. D'un autre côté, on a le sentiment, je répète ce que voient tous les observateurs, c'est que les deux pays, l'Iran manifestement a attaqué, a envoyé ses missiles et ses drones et a quand même 3 jours avant prévenu tous les pays sur lesquels avaient passé ses drones et sans doute les Américains qu'ils attaquaient. Donc, et on voit très bien, je crois que le guide l'a dit aujourd'hui, il a dit que ce qui compte, c'est pas le nombre de drones envoyés et de missiles, c'est pas, il a pas dit symbolique, mais c'est le fait qu'on ait attaqué. Donc, je crois que l'Iran est assez content qu'il n'y ait quasiment pas eu de victimes en Israël. Et du côté israélien, on voit très bien qu'ils ont pas revendiqué cette attaque sur Isfahan. Les Iraniens minimisent. Donc, les deux pays, on dirait, veulent en rester là. Mais d'un autre côté, bon, on peut pas non plus nier que c'est la première fois que les deux pays s'affrontent depuis la révolution iranienne.
C'est vrai que depuis 10 jours, les observateurs, les experts du monde entier expliquent qu'il y a des calibrages qui sont faits dans les attaques afin que personne ne perde la face, qu'on puisse riposter du point de vue aussi de ses opinions publiques respectives, on imagine. Mais ce calibrage, il pose quand même question, parce qu'on parle quand même de missiles balistiques, d'attaques de drones très performantes. Dans quelle mesure savons-nous si les acteurs maîtrisent ce calibrage et aussi si les messages qui sont envoyés sont bien compris par la partie adverse? Wendy Ramadan Alban.
Ouais, je pense que c'est toute la question de la dissuasion, c'est de savoir si les messages sont bien perçus. Moi, cet épisode-là, je l'ai intuitivement comparé à l'épisode de 2020 avec l'assassinat de Qassem Soleimani, alors cette fois-ci par une frappe de drone américaine en Irak. Et à ce moment-là, ce qu'on voyait, c'était dans la presse iranienne, c'était des commentaires qui disaient qu'il y avait eu des morts américains. Ce qui n'est a priori pas établi, et en tout cas ce qui a été contesté largement par la presse occidentale. Et donc ça questionne quand même la question de l'intention originelle de la frappe. Est-ce qu'elle était destinée à faire combien de morts, pas de morts, etc. Et ce qui nous aide pas du tout, c'est tout le jeu de désinformation qu'il y a autour en fait de tous ces événements, où même le nombre de missiles tirés est sujet à débat, n'est pas l'objet de déclarations très claires. Donc effectivement, vous posez une question qui est tout à fait centrale. Et ce qui peut aider en fait à la communication, eh bien, ce sont tous les intermédiaires. Donc on sait que l'Iran passe énormément par des médiations des pays du Golfe, dont notamment Oman, mais pas que. En fait, depuis janvier et depuis cette espèce de trêve un peu tacite qu'il y avait entre les États-Unis et l'Iran, on sait dans la presse iranienne qu'il y avait de nombreux canaux de communication, en tout cas entre l'Iran et les États-Unis, pour faire passer des messages.
Et ce qui est pas, vous parlez de désinformation, mais ce qui n'est pas évident non plus, c'est de faire la part des choses entre des déclarations très guerrières, et on en a entendu un extrait par exemple du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, hein, qui parle de Israël, et d'un autre côté, des déclarations après les attaques sur Isfahan, de dire bon, non, ce n'était que des petits drones, de minimiser, de dire que tout va bien. Donc, on a d'un côté des déclarations très va-t-en-guerre, très dures, et de l'autre, des messages qui se veulent rassurants. C'est pas évident de faire la part des choses, Thierry Coville.
Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, c'est toujours le problème avec l'Iran, c'est que on a du mal à prendre l'Iran pour ce qu'il est. Donc, faut toujours derrière avoir une idée, condamner ou faire les louanges. Mais je pense qu'il y a plus de gens dans le monde, s'ils s'intéressent vraiment à l'Iran, ils devraient simplement écouter les discours de Ali Khamenei, le guide. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, mais les écouter. Et moi, honnêtement, j'écoutais la polémique. Je savais pas du tout que l'Iran allait répondre à cette attaque du consulat iranien à Damas par des attaques de missiles et de drones. Enfin, je veux dire, je crois que quasiment il n'y avait pas un expert, parce que généralement ce qu'on disait, c'est que l'Iran considère qu'il a été attaqué. Par contre, et vous l'avez dit, la stratégie iranienne, c'était d'éviter un conflit direct avec Israël, parce qu'ils pensaient que ce serait un conflit avec les États-Unis. Donc, naturellement, on pensait que c'était quand même un pas important à prendre. Je me rappelle quand même parce que Khamenei a fait 2 discours. Donc, quand il parle d'un sujet comme ça, c'est jamais anodin. C'est quand même quelqu'un qui, on va dire, il dirige l'Iran, et l'Iran est un pays compliqué à diriger. Donc, les mots qu'il choisit, les sujets, c'est pas anodin. Il a fait 2 discours, je crois, en 2 semaines après cette attaque du consulat iranien. Et je me rappelle d'un discours, il a dit, d'après les lois internationales, les coutumes internationales, quand on attaque un consulat, on attaque le pays. Donc, voilà, tout ça pour dire que, C'est facile. Alors, c'est toujours facile d'expliquer après, mais je veux dire, du côté iranien, et alors, je pense qu'il y a aussi, il faudrait quand même rétablir les faits. Je veux dire, je lisais sur CNN, le département d'État américain considère quand un consulat ou une ambassade est attaqué, enfin, c'est la doctrine, je veux dire, je pense à la doctrine de droit international, le pays est attaqué. Donc, du côté iranien, je pense qu'il l'a dit. On considère qu'on a été attaqué. Il a dit, on va donner une gifle. Alors, effectivement, je pense que les Iraniens étaient face, je crois que l'un dirigeant, je crois que c'était un passe d'avant, a utilisé l'expression une équation complexe. C'était complexe à résoudre parce que ils ont été attaqués pour la première fois par Israël, mais directement. C'est l'armée israélienne qui prend la décision d'attaquer le consulat iranien à Damas. Quoi qu'on en dise, hein, je veux dire. Donc
ça constitue un tournant, c'est ça qu'il faut saisir.
Qu'il y a un affrontement indirect entre l'Iran et Israël depuis des années. Il y a des assassinats de scientifiques iraniens en Iran, des attentats contre les installations nucléaires, toute une série. Et puis là, l'Iran répond par l'intermédiaire de ses alliés régionaux. Donc cet affrontement existait. Mais là, pour la première fois, et donc il y avait atteinte au droit international pour les Iraniens. On est attaqué directement. Et pour un pays comme l'Iran, et d'ailleurs il n'y a pas que la République islamique d'Iran, hein, depuis, si vous regardez un peu l'histoire de l'Iran, la défense du territoire national pour un pays qui a été aussi envahi, c'est une obsession. Le sentiment que les règles du jeu ont changé. En plus, pas par n'importe qui, l'ennemi quasiment idéologique depuis la Révolution. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a eu le sentiment, il y a eu presque, je pense qu'il y a eu une surprise même en Iran, que Israël ait décidé quand même ça d'attaquer directement un consulat. Donc, il y a l'idée, c'était de répondre, ils étaient obligés de répondre quelque part. Effectivement, là où c'était quand même compliqué de savoir, c'est qu'ils ont décidé de répondre. On en a parlé, hein, sans doute. Ils ont envoyé, je suis complètement ignorant des questions militaires, mais j'ai appris que c'était la première fois même depuis très longtemps qu'un pays envoyait autant de drones et de missiles sur un autre pays. Hein, donc c'est pas que symbolique. D'un autre côté, je pense qu'ils ont tout fait, pour qu'il n'y ait pas de victimes. Si vous voulez, pour prévenir, quelque part, je dis pas qu'ils étaient soulagés, c'est pas le genre, mais ils voulaient pas qu'il y ait de victimes, mais ils disaient d'envoyer un message à Israël en disant, vous avez franchi une ligne rouge. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'on sentait bien que du côté iranien, je veux dire, il suffit d'écouter le discours d'Ali Khamenei, ils avaient le sentiment que une ligne rouge avait été franchie. Alors là, effectivement, là, c'est le, on va dire, moi j'ai utilisé l'expression réponse calibrée, je sais pas si c'est le bon choix, mais l'idée c'était de répondre à ça sans que ça donne le prétexte. Ils connaissent aussi le gouvernement israélien, à Israël et aux États-Unis pour déclencher un conflit direct. Voilà.
Pour comprendre l'enjeu de cette ligne rouge, il faut peut-être rappeler, Wendy Ramadan Alban, la façon dont l'Iran considère son rapport de force avec Israël. Poser la question, est-ce que l'Iran considère qu'il serait perdant en cas de guerre ouverte avec Israël? Est-ce qu'il a intégré l'idée qu'il y avait une asymétrie des forces face à Israël qui serait une puissance technologique et militaire supérieure? Et comment ça nous aide à comprendre l'enjeu de cette ligne rouge qui a été franchie?
Bien évidemment, il y a un cadre assez continu, je pense, depuis à l'issue de la guerre Iran-Irak, donc qui s'est déroulée entre 1980 et 1988, qui est une expérience assez fondatrice, mais assez exceptionnelle, puisque c'est la seule fois, en fait, dans l'histoire de la République islamique que l'Iran est engagé dans un conflit de haute intensité conventionnelle. Il y a eu la stratégie iranienne s'est définie à travers une politique de dissuasion qui était fondée donc d'une part sur le réseau de la résistance, c'est comme ça qu'elle l'appelle, donc
l'axe de la résistance,
tout à fait, qui regroupe des acteurs non étatiques sunnites mais aussi chiites, plus la Syrie. Et donc ça, c'est le premier pilier de la dissuasion iranienne. Et le deuxième pilier, c'était au départ les missiles balistiques, mais on peut ajouter désormais les missiles de croisière et puis les drones. Donc cette stratégie iranienne, c'est une stratégie qui est reconnue globalement par les experts comme étant défensive dans un cadre asymétrique. Donc ça, c'est très intégré. Et l'Iran a été, on peut regarder les événements historiques, mais aussi le rapport de la RAND, qui étudie toutes les interventions militaires de l'Iran depuis la guerre Iran-Irak, eh bien, ce rapport montre que, en fait, l'Iran était très, très précautionneux à ne pas engager des troupes de combat au sol pour éviter un conflit tel que l'Iran l'a connu durant 8 ans et qui a fait, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais qui a fait pour les deux parties entre 800 000 et 1 million de morts. Donc, si vous voulez, ça a été une expérience fondatrice qui a fait que l'Iran dans sa dissuasion, souhaite évidemment ne pas s'engager dans un conflit avec un État de la région, ni dont Israël. Donc la riposte iranienne est à comprendre comme un réajustement de la politique de dissuasion, mais n'est pas à comprendre comme un changement paradigmatique de stratégie. La stratégie reste la même, elle est défensive, elle se produit dans un cadre asymétrique. Mais je voudrais juste rappeler le contexte d'escalade qu'il y a eu en fait avant la riposte iranienne du 14 avril. C'est que en fait, ce n'est pas la première fois que l'Iran est ciblé en territoire syrien sur ses intérêts ou que des gardiens de la révolution se font assassiner en fait par Israël. Donc les premiers assassinats des gardiens de la révolution en Syrie datent de fin janvier 2013, enfin en tout cas ceux qui sont identifiés. Donc ça fait 10 ans en fait que les gardiens de la révolution se font assassiner.
Oui, ce que rappelait Thierry Coville, les cyberattaques, les attaques sur les sites de programmes nucléaires. Ces attaques sont à poser dans ce contexte, à remettre dans ce contexte.
Oui, et en fait, Thierry Coville l'a bien mentionné, là ce qui change en fait, c'est... par ailleurs, Israël a aussi ciblé... auparavant, par des attaques de drones, des sites militaires en Iran, et a aussi, comme l'a rappelé Thierry Coville, ciblé des scientifiques nucléaires iraniens et des gardiens de la révolution en Iran. Ce qu'elle ne commande pas, évidemment, mais en tout cas, ces attaques sont attribuées, en tout cas, par l'Iran.
Mais Wendy Ramadan Allemand, vous dites la stratégie de dissuasion qui s'est construite au fil des années et qu'on appelle, je crois, vous allez nous expliquer peut-être ce que recouvre ce concept, l'idée de patience stratégique. Est-ce que, à la faveur des événements actuels, vous avez dit aller réactualiser, hein, je crois que c'est le terme que vous avez employé, Thierry Coville. Quel est votre point de vue sur aujourd'hui la valeur de cette stratégie, de la patience stratégique? Est-ce qu'elle a été mise à mal par les événements actuels? Est-ce qu'elle est toujours en vigueur? Comment l'Iran va pouvoir maintenir vive cette dissuasion?
Alors, si vous voulez, c'est toujours pareil. Le problème avec l'Iran, c'est qu'il y a quand même des fondamentaux. Quoi qu'on en dise, il y a une réflexion stratégique et ils vont pas la changer comme ça. Je veux dire, je pense qu'on est plutôt dans un ajustement. Même si, je crois que j'ai entendu aussi des déclarations en Iran, ils disent la politique de patience stratégique est terminée. Mais il y a des fondements stratégiques, il faut les rappeler quand même, parce que donc il y a l'idée, ils ont subi quand même un conflit de 8 ans avec l'Irak. Effectivement... au moins 500 000 morts de chaque côté. Donc ça a été un traumatisme. Et il faut bien aussi comprendre tous les dirigeants qui sont actuellement aux manettes en Iran, qui sont les dirigeants, ils ont appris ce que ça voulait dire diriger et également les relations avec le reste du monde. C'est le conflit Iran-Irak. Donc le conflit Iran-Irak, il est fondateur pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui. Et donc l'Iran arrête le programme nucléaire, quand même, faut peut-être aussi le rappeler, après la révolution iranienne. Programme nucléaire qui, entre parenthèses, on l'oublie souvent dans les commentaires, a commencé du temps du chat. Et ils le font redémarrer au milieu des années 80. Alors là, effectivement, sans doute pour construire la bombe atomique, parce qu'ils se disent, on a été attaqué par Saddam Hussein. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, rappelons-le quand même, ne condamne jamais l'attaque de l'Irak. C'est quand même évident. Et tous les pays occidentaux sont derrière Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, avoir une force de dissuasion. C'est quand même assez rationnel. Donc, dans les fondamentaux de la politique iranienne, il y a la force de dissuasion, la recherche de l'arme nucléaire, alors ça a peut-être changé depuis, mais le programme balistique, vous avez raison. Également, l'idée qu'on travaille dans un conflit de type asymétrique. Ils ont perdu cette guerre conventionnelle au début contre les forces irakiennes. Donc ils savent, si vous voulez, je suis frappé quand même, moi je suis pas notamment un grand expert des questions militaires, mais les passes d'avant réfléchissent à ça. Donc le concept de guerre asymétrique, c'est, on sait qu'on fera pas le poids dans une guerre conventionnelle, mais on veut, le message qu'on essaie de faire passer à nos ennemis, c'est on leur fera très mal si vous essayez de nous attaquer par l'intermédiaire de l'axe de résistance et de ce programme balistique. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ces fondamentaux stratégiques, ils ont pas changé. L'Iran est très prudent. Le régime veut rester au pouvoir. Ils veulent pas s'engager dans un conflit qu'ils vont perdre. D'un autre côté, pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer, je pense aussi il y avait la pression de, vous savez, cette minorité, alors est-ce que c'est 20-30% de la population iranienne qui soutient le régime? On entendait des déclarations à la télévision publique iranienne, comme vous l'avez dit, ça suffit. Tous ces officiers qu'on a perdus en Syrie, on est là à pleurer les martyrs. Il y a des gens qui sont passés à la télé, donc c'était aussi pas anodin. Ils disaient, ça suffit. Donc tout ça, disons, l'Iran a évolué, a ajusté sa stratégie. Bon, je pense que les fondamentaux dont on a parlé, ils existent toujours. Alors effectivement, il peut y avoir des inquiétudes parce que bon, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on est dans une période où l'Iran a fait de gros progrès sur son programme nucléaire. S'ils commencent à voir que on décide comme ça de les attaquer, c'est pour ça qu'il faut être très prudent vis-à-vis ça. Et je pense que les Israéliens l'ont bien compris. Du côté du programme nucléaire, on lit des choses dans la presse iranienne, c'est quelle est la garantie pour qu'on ne soit pas attaqué par Israël et les États-Unis, c'est d'aller très rapidement vers la bombe nucléaire. Donc, pour répondre à votre question, ajustement. Je pense que les fondamentaux de la stratégie iranienne persistent.
Bah c'est la question que j'allais justement vous poser. L'Iran est souvent qualifié de puissance du seuil par rapport au nucléaire, c'est-à-dire que, corrigez-moi si je me trompe, mais il ne possède pas la bombe, mais il dispose des moyens de l'obtenir rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran pourrait être tenté de dépasser le seuil pour se garantir une protection par la dissuasion nucléaire, Wendy Ramadan Alban?
Alors, je voudrais juste préciser une chose, c'est que donc effectivement, l'Iran est un état du seuil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est en capacité de fabriquer une bombe, c'est-à-dire qu'il a rassemblé suffisamment d'uranium enrichi. Donc aujourd'hui, l'Iran enrichit à 60% son uranium. Hein. Le seuil militaire, c'est 90%. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas tout à fait encore. Mais ça veut dire qu'elle a les capacités, en tout cas technologiques, pour enrichir à 90%. Parce que si on sait enrichir à 60%, on sait enrichir à 90%. Et elle a suffisamment de quantité d'uranium enrichi à 60% pour pouvoir fabriquer une bombe selon les critères de l'AIEA.
En combien de temps on estime qu'on pourrait franchir, passer de 60 à 90% avec une quantité suffisante?
Alors c'est une question qui est pour moi difficile à répondre parce que je pense que c'est vraiment des compétences purement techniques, mais en tout cas je voudrais juste rappeler que une fois qu'on a cette matière, il faut créer un détonateur, il faut avoir le missile qui va bien, donc bon ça l'Iran a des missiles balistiques, on pourrait imaginer, en tout cas même si elle dément, c'est ce que je voulais préciser, c'est-à-dire qu'officiellement l'Iran ne cherche pas à avoir l'arme nucléaire, donc c'est son discours officiel, ce que conteste Israël, qui est persuadé que l'Iran n'a pas abandonné son programme militaire nucléaire, alors que d'après les services de renseignement occidentaux, ils avaient des velléités effectivement à militariser leur programme nucléaire, mais a priori depuis 2003, certains rapports des renseignements occidentaux disent que il n'y a plus cette arsenalisation, ce programme d'arsenalisation. Donc Israël frappe des scientifiques iraniens comme Mohsen Farhizadeh, qui était selon Israël le chef du programme Hamad, qui est le programme selon Israël militaire nucléaire, mais officiellement donc l'Iran ne cherche pas à acquérir la bombe. En revanche, ce qu'on a pu voir dans les récentes années, dans le cadre d'escalade des tensions régionales, qui commence en fait à la suite du retrait de Donald Trump, en fait, de l'accord nucléaire du JCPOA, pour son acronyme anglais, il y a eu des débats en Iran, en tout cas savoir si on restait dans le cadre du TNP, puisque aujourd'hui l'Iran est toujours et a toujours été, en tout cas depuis la création du TNP, pas engagé, en tout cas à ne pas se doter d'une arme nucléaire. Donc on a pu voir comme ça ici et là dans la presse des personnalités politiques comme Saïd Jalili, qui est un principiste, qui ont remis en cause l'appartenance de l'Iran au TNP. Néanmoins, il y a toujours eu en Iran des gens plutôt avec une ligne assez dure pour critiquer l'appartenance au TNP. Donc ça, c'est pas tellement nouveau. Ce qui est un peu nouveau, c'est que ça transparaît dans la presse et que ces gens-là peut-être gagnent un peu en influence. Mais cela ne veut pas du tout dire que l'Iran va le faire, puisque évidemment, si l'Iran, on peut bien imaginer que ce n'est pas simplement les États-Unis qui s'opposent à un Iran nucléarisé, mais également la Chine et la Russie. Donc en fait, là, je pense qu'il y a quand même un accord des grandes puissances sur cet objectif de non-prolifération. Et on peut bien imaginer que les élites politiques iraniennes en ont parfaitement conscience.
Et que ce serait une prise de risque stratégique, en tout cas, s'opposer à d'éventuelles représailles. Thierry Coville, en interne, justement, en Iran. Comment ce sujet a évolué et est-ce qu'aujourd'hui, il y a, pourrait-on dire, consensus sur l'idée, vous disiez, de se doter de cette dissuasion nucléaire, et à quel point elle est considérée comme la priorité du point de vue de la stratégie de défense nationale? Qui défend cette ligne en interne?
Alors, historiquement, pour bien comprendre la République islamique d'Iran, il y a deux approches en termes de politique étrangère, mais même deux approches pour gérer le pays qui s'affrontent depuis la révolution. Je pense que c'est toujours le cas dans n'importe quel pays qui fait la révolution. Vous avez une approche révolutionnaire, alors qu'a évolué depuis, parce que le monde a changé. Donc même ceux qui sont pour une approche révolutionnaire, ils se rendent bien compte que le monde a changé. Puis une approche, on va dire, plus réaliste, qui est née après, à la fin de la guerre en Irak, sous l'impulsion du président Hashimi Rafsanjani. Alors l'approche réaliste, c'est on a des problèmes, mais on doit d'abord les résoudre par la diplomatie et, entre parenthèses, par le respect du droit international. On peut avoir des relations, par exemple, avec les États-Unis, qui sont quand même l'ennemi numéro un des écrans ennemis, si les deux pays se respectent. Donc, ces deux approches se combattent. Pourquoi j'en parle? Parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre que l'accord sur le nucléaire de 2015, il est fondamental en Iran pour, en termes de politique étrangère, de politique intérieure, politique économique, tout ça, parce que, quelque part, c'était la victoire de l'approche pragmatique. L'approche pragmatique, ils se sont battus, pas simplement avec les Américains et les Israéliens pour négocier, en interne aussi pour convaincre, notamment le guide qui était plutôt du côté de l'approche révolutionnaire, que voilà, on va résoudre cette question du nucléaire par les négociations. Donc c'était pas évident en Iran, parce que vous l'avez très bien dit, il y a des gens en Iran, alors c'est une minorité, mais au Parlement qui disent régulièrement « mais ça suffit, il faut sortir du TNP, on en a marre de tout ça, etc. » Donc cette approche, elle a quand même gagné, et c'était pas évident. Pour vous donner un exemple, Mohammad Javad Zarif, après la sortie de Trump, il a été traîné dans la boue par le Parlement iranien, qui l'ont même accusé qu'il y avait des éléments secrets dans le traité de 2015 qui a été signé, qu'il n'avait pas osé révéler aux Iraniens. Donc, si vous voulez, le degré de haine qu'il y a entre les deux camps. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est la partie pragmatique qui gagne le morceau avec cette négociation. Alors, ils négocient également avec les 5+1, hein, les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Allemagne. L'accord est signé en juillet 2015, respecté par l'Iran. Tous ceux qui ne le croient pas, ils ont qu'à lire tous les rapports de l'AIEA qui le confirment, c'est pas moi qui le dis. Et Trump en sort alors que l'Iran respecte l'accord. Tout ça pour dire que ça a été un traumatisme total. D'ailleurs, moi, d'après ce que j'ai vu, j'ai entendu des diplomates iraniens, ils s'y attendaient pas. Même, je pense, les plus durs, que de nouvelles fois, que les Américains aient jusque-là un accord respecté par l'Iran, validé par une résolution des Nations Unies quand même. Et que même les modérés ont cru jusqu'au dernier moment que les Européens se battraient pour cet accord. À mon avis, c'était bien naïf. Hein. Donc tout ça pour vous dire que c'est la partie révolutionnaire, ben ils ont pris assez logiquement. Ben les autres se sont fait enfoncer, les modérés, on leur a dit, ben regardez, vous avez signé cet accord, il marche pas. Vous êtes fait marcher dessus, vous étiez bien naïf, c'était un piège, on vous l'a toujours dit, faut se méfier, on peut pas négocier les Occidentaux. Donc ceux, je veux dire, sur le plan de la politique générale, qui dirigent en Iran, c'est ceux qui sont fondamentalement anti-occidentaux et qui pensent qu'avec les Occidentaux, le droit international, ça marche pas. Il faut nous tordre le bras. Donc c'est pour ça qu'on est dans une période assez dangereuse. Il y a deux options par rapport au problème nucléaire. Moi, j'en sais rien. Il y a ceux qui disent, l'Iran veut négocier toujours, veut rester effectivement, ils sont pas sortis encore, hein, de l'accord 2015. La meilleure façon pour gagner des points, c'est de faire peur en disant, on se dirige vers la bombe nucléaire, vers une puissance du seuil. Si vous faites rien, il faut nous arrêter. Et pour nous arrêter, il faut que les États-Unis reviennent dans l'accord et lèvent les sanctions. Alors, il y a ceux qui disent, effectivement, l'Iran profite de cette période un peu, où les États-Unis sont sortis dans l'accord, etc., pour progresser le plus rapidement vers l'arme atomique. Moi, j'en sais rien. Moi, je pense un élément important, ils sont pas encore, pour répondre à cette question, ils sont pas encore sortis de l'accord 2015. Je pense que c'est Khamenei qui prendra cette décision. Je pense qu'ils croient toujours, voir ce que ça donne, que les États-Unis, éventuellement après les élections américaines, reviennent dans l'accord 2015 et renégocient avec l'Iran.
Wendy Ramadan Alban.
Oui, alors effectivement, les Iraniens n'ont pas dit qu'ils sortaient de l'accord comme l'ont fait les États-Unis. Néanmoins, l'accord a quand même été rendu complètement caduque, puisque le but de l'accord sur le nucléaire iranien, c'était de dire on contrôle, on reconnaît votre droit à l'enrichissement de l'uranium sur votre sol, ce qui était une énorme avancée, parce que les États-Unis ont accepté cette idée, et les Européens aussi, mais surtout les États-Unis, alors que dans les années précédentes, la Russie n'était pas d'accord sur le fait que l'Iran ait ces technologies-là et de maîtrise complète du cycle complet de l'uranium. Donc l'accord, c'était on contrôle votre programme nucléaire dans des limites qu'on considère raisonnables, et en échange, on lève l'ensemble des sanctions multilatérales et les sanctions américaines et de l'Union européenne. Et en fait, rien ne s'est passé, c'est-à-dire que les sanctions n'ont pas été levées, il y a eu encore plus de sanctions à l'encontre de l'Iran, et donc les élites politiques iraniennes ne reconnaissent plus et c'est un objet de tension avec l'AIEA, c'est-à-dire que les élites politiques iraniennes, dans les négociations qui avaient été recommencées sous l'administration Biden au début, les Iraniens considèrent que l'accord est caduque. Donc on ne peut pas nous demander de réduire notre taux d'enrichissement à 3,67%, puisque vous ne levez pas les sanctions. Et donc, ce qui fait cadre pour les Iraniens, c'est ces engagements, en fait, dans le cadre du TNP, à travers des accords de garantie généralisée que l'Iran a signé en 1974. Et donc, il y a aussi des conflits d'interprétation sur ces accords, mais en tout cas, c'est le cadre auquel se réfèrent les Iraniens, alors que l'AIEA continue de se référer à l'accord multilatéral de Vienne, donc par exemple en reprochant à l'Iran de ne pas appliquer le protocole additionnel. Et les Iraniens disent, mais nous, le protocole additionnel, on l'a signé, mais on ne l'a pas ratifié. On l'a signé en 2003, et on devait le ratifier dans le cadre de l'accord multilatéral de Vienne. Donc ça génère énormément de tensions.
Et ça génère aussi des tensions en Iran. Vous le disiez, Thierry Coville, depuis 1979, il y a deux courants politiques par rapport à l'idéologie de la révolution. Et vous le disiez aussi, on estime qu'entre 20 et 30% de la population iranienne est en soutien fervent du régime. On en écoute un extrait.
Lorsqu'il s'agit de défendre notre patrie, nous sommes prêts à tout. Actuellement, notre pays est confronté à des sanctions économiques et de nombreuses personnes sont en difficulté. Mais la défense de notre pays est plus forte que n'importe quel obstacle.
Nous sommes musulmans et nous n'avons pas peur de la guerre parce que nous croyons que si Dieu veut qu'il y ait une guerre, je survivrai. Lorsque je vois Hiroshima, où la bombe atomique a été larguée et où certaines personnes ont survécu, je me dis que si Dieu le veut, même une bombe atomique ne peut pas nous détruire.
Témoignage d'un avocat et d'une enseignante recueillie dans la rue à Téhéran par l'AFP, c'était le 17 avril. Aujourd'hui, pour revenir à la situation par rapport à Israël, est-ce que les dirigeants iraniens espèrent raviver les sentiments nationalistes, ressouder la nation autour de l'idée d'une patrie en danger, comme ça a été le cas durant la guerre du Golfe, et tout en remettant évidemment cette question dans le contexte de la grande contestation qui a démarré en septembre 2022 après la mort de Mahsa Amini, qui a profondément divisé le pays. Comment la politique étrangère vis-à-vis d'Israël a des effets sur l'unité de la nation iranienne, Thierry Coville?
Alors ça, c'est une vaste question, mais par rapport à l'épisode précis, moi, j'y crois pas trop. Je lis ça, justement, dans certaines déclarations, que oui, l'Iran est rentré dans ce conflit pour des raisons de politique intérieure. Je pense que les raisons qui ont...
C'est parce que j'ai sous-entendu, ça pourrait avoir des effets.
Par contre, moi, j'y crois pas. C'est plutôt les raisons dont on a parlé au début de l'émission. C'est le fait que l'Iran était attaqué, que le sentiment qu'Israël avait changé les règles du jeu. Aussi, on n'en a pas parlé, c'est que du côté iranien, il y avait si on réagit pas maintenant, Israël va devenir de plus en plus audacieux. Donc il faut les stopper maintenant. D'un autre côté, ça va rien changer à l'équation politique interne en Iran depuis les manifestations liées à la mort de Mahsa Amini. Alors, les pourcentages, moi, honnêtement, j'en sais rien. Mais moi, je pense que c'est assez représentatif de l'Iran. C'est 20-30% de la population, vous l'avez dit, qui soutient à fond, pour des raisons économiques et idéologiques, le régime. 20-30% de la population qui déteste, mais qui haït le régime. Qui haït le régime. C'est-à-dire, le régime dit blanc, eux, ils disent noir. Le régime dit Israël, dit Palestine, eux, ils disent Israël. Et puis, au milieu, la classe moyenne, qui veut la démocratie, l'état de droit, mais qui est inquiète. Donc, pour répondre à votre question, moi, je pense que le territoire iranien, là où peut-être on se trompe, c'est là où, il faut faire attention, parce que la République islamique d'Iran, c'est un mélange d'idéologie qui existe, mais c'est pas que religieux, c'est ceux qui disent, c'est un peu, moi je vous dis, j'en profite, la République des Mollahs, je trouve que c'est un raccourci, non mais c'est pas vous, heureusement, parce que combien de fois on entend ça dans les médias, c'est bête, parce que justement, c'est tout sauf que religieux, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il y a un grand fort sentiment nationaliste qui est lié avec la guerre Iran-Irak, si vous voulez. Donc, je pense que si l'Iran était attaqué directement, alors là, même ceux qui à la limite détestent la République islamique d'Iran, je pense que l'Iran est attaqué, ça veut dire quelque chose. Un exemple qui m'a semblé très parlant, c'est, vous savez, quand vous avez parlé de l'assassinat de Rassem Soleimani, qui a été assassiné par les Américains. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de son enterrement, alors on a dit, 15 millions d'Iraniens dans la rue. 15 millions d'Iraniens. Même les manifestations officielles du régime, ils ont, je ne sais pas combien de personnes, ils arrivent à avoir 2-3 millions de personnes. Dans ces 15 millions de personnes, il y a beaucoup de gens qui détestaient la République islamique d'Iran. Donc je pense qu'on n'en est pas au stade, si jamais l'Iran était attaqué, là vous verriez ce nationalisme quand même surgir, même s'il y a beaucoup de problèmes politiques en Iran, pour répondre à votre question. Mais je ne crois pas que l'affrontement était lié à des questions de politique intérieure.
Wendy Ramadan Alban, rapidement, les réformateurs, ce qu'on appelle l'aile modérée, sont aujourd'hui plutôt sortis du jeu politique. Néanmoins, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont eux considèrent la relation de l'Iran à Israël ? Est-ce qu'ils en font la même priorité, la même obsession ? C'est le mot que vous aviez l'un ou l'autre utilisé tout à l'heure.
En effet, non. En fait, je voudrais d'abord commencer par dire que la politique de dissuasion iranienne a longtemps fait consensus parmi les élites à travers le spectre politique. Donc, pour faire simple, je précise juste que à partir du milieu des années 90, il y a une réorganisation de la scène politique interne et il y a globalement trois courants politiques. On parle pas tellement de partis en Iran puisque le système des partis tel qu'on l'entend en Occident n'existe pas. Et donc, il y avait le courant de la gauche, les réformistes, le courant du centre incarné par Rafsanjani et Hassan Rouhani, qui est son héritier politique, et le courant de la droite.
Sur les réformistes, oui.
Et sur les réformistes, de toute façon, ils sont hors jeu depuis 2009, à la suite de l'élection contestée d'Ahmadinejad pour un deuxième mandat, ils ont été complètement neutralisés sur le plan politique. Donc, de toute façon, ils n'ont pas voix au chapitre. Mais pour répondre à votre question, les réformistes, mais pas que, les centristes aussi, donc Hassan Rouhani, ont effectivement une autre vision ou d'autres priorités, en tout cas des objectifs nationaux iraniens. Alors, qui ne vont pas aller forcément contre, qui ne vont pas proposer une autre vision de la dissuasion, puisque l'Iran a très peu de marge de manœuvre finalement, mais qui vont dire nous on veut normaliser en fait, on veut normaliser l'image de l'Iran sur la scène internationale, c'est ce que partagent les centristes et les réformistes, et du coup cette normalisation permettrait de tourner une page dans les relations entre Iran, Israël, et je précise juste que la position officielle du régime, qui n'est pas reprise par l'ensemble des personnalités politiques, bien évidemment, on l'a vu avec Mahmoud Ahmadinejad, qui avait une rhétorique très contestataire, c'est de dire qu'en Israël, il faut faire un référendum. Ça, c'est la position officielle du régime.
آزمودم دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد خوشنود نکرد آنچه ازش کشید این دل من که نکشید وانچه در را تش کرد این دل من اود نکرد گفتم این بنده نه در عشق گرو کرد دلی گفته برکه بری کرد ولی زود نکرد آه دیدی که چه کرد است مرا آن تقصیر آن چه مشه به دماغ و سره نمرود نکرد بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد آزمودم دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد
Il n'y avait pas de remède pour mon cœur souffrant, mon âme ne s'est pas lassée de ton sourire aigu, chantait en 2014 le groupe iranien Ohum qui s'inspire de Hafez, le poète et mystique persan dans l'écriture des paroles de ses chansons. Vous écoutez Culture Monde sur France Culture, premier volet de notre série sur les stratégies d'influence de l'Iran dans la région. On parle ce matin de la stratégie de dissuasion entre l'Iran et Israël. Restez avec nous, on accueille dans un instant une nouvelle invitée pour parler du musée de la défense sacrée de Téhéran, une mémoire au service de l'axe de la résistance.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
La première salle traite de la révolution islamique. Comment est-ce que la révolution a surgi dans notre pays et comment Saddam Hussein a précipité notre pays dans la guerre. Dans les salles qui suivent, nous découvrons l'histoire de cette guerre et comment les Iraniens se sont rassemblés pour défendre leur patrie. Les arts ont joué un rôle important pour encourager nos soldats à défendre l'Iran. Et maintenant que de nombreuses années ont passé et que nous ne sommes plus engagés dans une guerre ouverte, les arts nous permettent de maintenir vive cette mémoire de manière à ce que nous n'oublions jamais l'âge d'or où nos hommes ont défendu de toutes leurs forces leur patrie et leur religion.
Extrait d'une vidéo promotionnelle du Musée de la Défense Sacrée, un lieu créé en 2012 en plein centre de Téhéran avec pour objectif, comme le rappelle ce guide qu'on vient d'entendre, de maintenir vive la mémoire de la guerre, celle contre l'Irak de Saddam Hussein de 80 à 88, qui fit 500 000 morts côté iranien selon les autorités, de jeunes hommes tombés au front, hissés au rang de véritables martyrs, que raconte ce musée de l'importance de la politique mémorielle en Iran. Bonjour Sophia Marroug.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en histoire de l'Iran contemporain à Sorbonne Université. Vous préparez une thèse sur la politique culturelle des gardiens de la révolution et sa transformation en défense douce de 79 à nos jours. Dans cette vidéo promotionnelle, ce qu'on ne voit pas, enfin ce qu'on a, parce qu'on est à la radio, c'est que c'est un clip qui montre un lieu très moderne, gigantesque, avec de nombreuses salles d'exposition, un grand parc, des salles de conférences. Qu'est-ce que ça dit en 2012, au moment de sa création, de l'importance qui a été accordée à ce lieu? Il fallait que ce soit imposant, il fallait que ça impressionne. Qu'est-ce que ça dit de l'importance de la politique mémorielle?
Oui, tout à fait, et ça devait aussi influencer la jeunesse. Donc, le musée a été créé en 2012, mais cette construction s'inscrit dans une politique culturelle plus large qui a été initiée au début des années 90, après la guerre Iran-Irak, par les gardiens de la Révolution, qui ont créé une fondation, qui est un genre économique particulier en Iran. Et ce musée est dans un quartier résidentiel de Téhéran, au nord de la ville. Il est gigantesque, titanesque. Je crois que ça fait plus de 200 000 mètres carrés. Vous n'avez pas qu'un musée dans cet espace. Vous avez des jardins, un théâtre, un centre d'archives. Et l'objectif est de créer pas qu'une culture de la guerre Iran-Irak, c'est de créer un genre de scientifique, culturel, par ces centres d'archives et par une construction d'un récit historique très solide.
Alors, à l'origine, il est dédié aux jeunes Iraniens qui sont morts au front lors de la guerre Iran-Irak, les chaïds. Leurs portraits sont omniprésents et notamment dans la salle dite des papillons. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette salle et cette partie du musée?
Oui, alors cette salle des papillons, il y a une certaine émotion hein, quand on le visite parce que il y a des musiques et donc ce sont des petits papillons qui sont suspendus. Avec au bout des photos de soldats souriants de tout âge, de toute condition sociale. En fait, c'est majoritairement une condition sociale très basse, anonymisée. Mais le but, c'est que par cette massivité des soldats, on commémore celui qui est inconnu.
Alors, après 88 et la guerre, le musée a continué à accueillir de nouvelles figures de combattants. Si ces chaïds de l'époque 80-88 sont omniprésents et mis à l'honneur tout de suite, au fur et à mesure, le musée a accueilli de nouvelles figures. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles?
Oui. Alors, c'est ça qui est très intéressant quand on étudie ce musée, c'est que ça commence par une politique culturelle commémorative de la guerre Iran-Irak et de la révolution islamique. D'ailleurs. Et cette défense de l'Iran, qu'on appelle la défense sacrée, ces jeunes hommes qui sont partis au front pour combattre les troupes de Saddam Hussein, vont être continuellement transposés aux nouveaux événements géopolitiques du régime. Je m'explique, par exemple, aujourd'hui, vous avez le musée des martyrs scientifiques, qui sont des civils, où vous avez quatre portraits de scientifiques en génie civil iranien qui ont été assassinés par Israël, en tout cas, l'Iran dit qu'ils ont été assassinés par Israël. Et là, ce sont la section. Donc, vous avez désormais la section des martyrs scientifiques. Vous avez également la défense des sanctuaires. La défense des sanctuaires, qu'est-ce que c'est? C'est une évolution de cette défense sacrée de la guerre Iran-Irak. qui est parti combattre en Syrie aux côtés de la Russie et de la Syrie de Bachar al-Assad, enfin des troupes de Bachar al-Assad. Et comme l'opinion publique iranienne était largement défavorable à une intervention iranienne en Syrie en 2012, l'objectif était de contourner cette prise de position par une défense des sanctuaires chiites en Syrie et en Irak. Donc vous avez une section désormais consacrée à cette défense des sanctuaires qui prend source, sa source spirituelle, je dirais, dans cette défense sacrée de la guerre Iran-Irak.
Alors les militaires et les combattants qui sont tombés en Irak et en Syrie depuis 2012, certains sont aussi tombés lors de combats contre l'État islamique. Quel statut ont-ils? Comment sont-ils considérés par la population iranienne? Sont-ils vraiment à mettre sur le parce que ce sont des profils très différents, des jeunes hommes, des chahides qui sont morts au combat lors de la guerre Iran-Irak. Là, on parle de militaires, même parfois d'une élite militaire, la force Al-Quds. Ce sont pas du tout les mêmes profils sociologiques. Comment sont-ils intégrés dans ce musée? Comment sont-ils considérés? Ont-ils vraiment la même image que les chahides de 80-88?
Non, alors déjà, ils ne sont pas anonymisés cette fois-ci. Et surtout, ceux qui sont morts au combat en Syrie, à l'instar de Hamedani, qui est un commandant des forces Quds, et qui est décédé là-bas. Hamedani avait fait ses premières armes pendant la guerre Iran-Irak. Et là, le musée le représente comme une élite, en effet, un héros national. Et ça, c'est une des principales évolutions, et c'est très intéressant quand on regarde notamment le site internet du musée. On voit très bien que c'est d'une figure juvénile déshéritée, on retrouve une élite. On voit aussi que cette glorification des martyrs de la défense des sanctuaires, elle est pour pas forcément des Iraniens. J'ai trouvé un cas d'un fils d'un haut commandant du Hezbollah qui est mort en Syrie, qui a sa place au sein du musée des martyrs en ligne du musée de la défense sacrée.
Alors le musée de la défense sacrée, il est dirigé par une fondation qui est directement reliée à l'état-major des forces armées. C'est ce que vous expliquez dans vos articles. Donc c'est un lien direct avec les gardiens de la Révolution. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont les gardiens de la Révolution travaillent à l'histoire et à la politique, et comment ils utilisent la politique culturelle pour non seulement valoriser cette histoire, mais aussi l'actualiser avec les conflits contemporains.
Cette étude est aussi très intéressante parce que quand on suit l'évolution de la Fondation, on s'aperçoit qu'elle suit aussi des évolutions, l'évolution de la politique intérieure et même de la politique présidentielle, alors qu'en généralement, elle n'est pas forcément concomitante à celle des gardiens. C'est-à-dire, pendant les années 90, on était vraiment dans une logique de commémoration. Début des années 2000 également, il y a eu beaucoup de partenariats sous la période du réformiste Ratami avec l'Organisation internationale des musées, l'ICOM, qui est une organisation de l'UNESCO. Et à partir de la fracture de 2009, c'est-à-dire le mouvement vert, le deuxième mandat d'Ahmadinejad, on a vu que cette politique culturelle était beaucoup plus offensive. Et derrière le terme de défense, en fait, il y a de la prévention face à ce qu'ils appellent l'arrogance culturelle. Donc. Et cette prévention, elle a pour objectif de prendre l'espace dans ce qu'ils appellent le cyberespace, donc sur les réseaux sociaux. Donc on a vu beaucoup de canaux Telegram créés, on a vu des sites internet créés, on a vu des comptes Twitter, des chaînes YouTube. Et c'est comme ça que cette politique culturelle évolue.
Vous parliez de la rupture du mouvement vert. Il y a aussi le mouvement Femme, Vie, Liberté, qui depuis un an et demi est porté par une partie de la population et de la jeunesse iranienne. Dans Femme, Vie, Liberté, il y a vie. Et on a souvent expliqué que vie, c'était une manière de s'opposer à la culture du martyr qui est présente donc depuis longtemps, comme vous l'expliquez bien, et comme ce musée le démontre en Iran. Est-ce que ça veut dire que cette culture du martyr est aujourd'hui contestée?
Je pense qu'il reste le choc de la guerre Iran-Irak pour les familles, parce que ça reste une guerre extrêmement longue et coûteuse d'un point de vue humain. En revanche, cette réutilisation des martyrs à outrance et ce financement perpétuel de ce type de centres culturels et de musées insupporte une partie des Iraniens parce qu'on voit bien que certains musées, à l'inverse, sont complètement délaissés dans les rénovations, à la star du musée du tapis en Iran. Ou des joyaux de la couronne. Donc, en effet, il n'y a aucun intérêt, si l'on s'oppose au régime, à visiter ce musée de la défense sacrée. Même si, je tiens à le préciser, il y a un travail d'archives et d'histoire qui est énorme dans le musée de la défense sacrée pour reconstruire l'histoire de la guerre Iran-Irak et reconstruire sans propagande.
Et ces historiens qui travaillent sur les archives et qui, si j'ai bien compris, ne souhaitent pas promouvoir une propagande, ça veut dire qu'il y a des dissensions internes dans la manière dont est menée cette politique culturelle et commémorative ?
Il se peut qu'il y ait des dissensions internes parce que quand on suit l'évolution de cette politique culturelle, on voit que on retrouve sur le web des témoignages de gardiens de la Révolution qui sont historiens. Ils se disent historiens, ils ont fait des études d'histoire, ils ne sont pas partis au front. Et pendant la guerre Iran-Irak, ils ont récolté des documents pour faire des récits, des opérations militaires. Et ces historiens, en fait, ils ont inspiration plutôt une culture académique européenne, je dirais. Et ils sont contre, ils interviennent parfois sur des agences de presse principistes, donc fondamentalistes, proches des gardiens de la Révolution, pour dire « attention, ne faites pas de réutilisation exagérée et propagandiste de ce récit de la guerre ».
Merci beaucoup, merci à vous. Sophia Marouk, pour ces éclairages sur le musée de la défense sacrée de Téhéran. Merci beaucoup à nos deux intervenants de la première partie de l'émission. Thierry Coville, je rappelle, l'Iran, une puissance en mouvement, c'est chez Erol. Merci beaucoup, Wendy Ramadan. Alban, votre thèse, la grande stratégie de la République islamique d'Iran, le cas des négociations sur le programme nucléaire iranien, était soutenu en 2022. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture. La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Catherine, un fil rouge ce matin, quand politique et religion se mêlent, c'est l'une des raisons qui ont poussé le chef républicain de la Chambre basse du Congrès aux États-Unis à débloquer une aide à l'Ukraine.
Ce que la presse américaine nous raconte, c'est presque une épiphanie, une conversion du speaker Mike Johnson, très croyant, le chef républicain de la Chambre des représentants. Le Washington Post, dans un édito, lui reconnaît un sacré courage pour défier, je cite, « les brutes de son propre camp » et faire adopter la gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars réclamée depuis des mois par le président démocrate Joe Biden. 61 milliards pour l'Ukraine, précise la chaîne télévisée ABC News, 13 milliards pour Israël, 9 milliards de dollars d'aide humanitaire à Gaza notamment et 8 milliards de dollars pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire et venir en aide à Taïwan, indique le Washington Post. Les conservateurs modérés se sont montrés à la hauteur de la situation, ont reconnu les démocrates, louange peut-être excessive après tout, c'est le rôle du président de la Chambre basse de faire avancer la volonté collective, poursuit le Washington Post, mais faire ce qui est juste ou même normal n'est pas la façon dont le Parti républicain sous l'emprise de Donald Trump fonctionne ces jours-ci, selon l'éditorialiste du Washington Post. Et Vanity Fair se souvient qu'il y a deux semaines encore, Mike Johnson avait fait un pèlerinage à Mar-a-Lago, en Floride, pour rencontrer Donald Trump et sauver son poste au Congrès, contesté par l'aile dure de la droite américaine. Alors comment a-t-il accepté finalement de faire avancer l'aide à l'Ukraine ? Eh bien Mike Johnson a trouvé son chemin de Damas, nous racontent le Washington Post et le New York Times, en rencontrant depuis plusieurs semaines, non pas la Trinité, mais les trois Mike, le prénom de trois présidents de commissions au Congrès, notamment du renseignement, ainsi que le directeur de la CIA ou encore le président Joe Biden, pour parler de l'état de la guerre en Ukraine et de ses implications.
Et le chef républicain de la Chambre a également entendu des chrétiens évangéliques des États-Unis et d'Ukraine.
Ils lui ont parlé de la persécution des chrétiens ukrainiens par la Russie. Mike Johnson, fervent baptiste du sud des États-Unis, est aussi guidé par sa foi, rapporte des républicains dans les pages du New York Times et du Washington Post, le quotidien qui indique de manière plus pragmatique que le chef républicain a aussi été rassuré par des sondages. Mike Johnson a donc pu surmonter les objections de l'extrême droite pour obtenir cette nouvelle aide à l'Ukraine, votée avec l'appui des démocrates, ce qui est une hérésie pour Marjorie Taylor Greene, l'une des fidèles trumpistes au Congrès.
Le peuple américain est indigné, il est d'accord avec moi, je le sais, car j'en ai parlé avec mes concitoyens, expliquait hier Marjorie Taylor Greene sur Fox News. Ils me disent qu'ils ne veulent plus voter pour les républicains, parce qu'actuellement, notre parti n'est pas différent du Parti démocrate. C'est une sorte de grand parti unique qui sert le monde en premier et l'Amérique en dernier. Et vous savez quoi? Face aux critiques, je ne vais pas m'excuser de rester fidèle à mes convictions, à ma foi et à mon allégeance aux États-Unis d'Amérique. Le Parti républicain doit changer pour refléter la volonté de ses électeurs et remplir sa mission. Le journal politique The Hill et la BBC soulignent que la Trumpiste est prête à remuer ciel et terre pour faire tomber Mike Johnson du perchoir de la Chambre des représentants, quitte à provoquer de nouvelles instabilités au sein des républicains à 7 mois de l'élection présidentielle. Mike Johnson, lui, semble avoir accepté son destin, selon le Washington Post et la BBC, comme s'il tendait l'autre joue.
Et pour finir, Catherine, vous nous emmenez au Brésil, où l'ancien président Jair Bolsonaro a appelé à manifester hier pour défendre la liberté d'expression.
Alors qu'une enquête le vise pour avoir fomenté un coup d'État contre son successeur, le président Lula, le militaire d'extrême droite à la retraite, disqualifié pour les élections jusqu'en 2030, ne renonce pas pour autant à la vie politique, comme le souligne le quotidien brésilien O Globo et El País América. Jair Bolsonaro a rassemblé hier près de 33 000 personnes sur l'emblématique plage de Copacabana. Alors c'est 5 fois moins de partisans qu'en février dernier à Sao Paulo, alors qu'il avait clamé son innocence dans l'affaire de coup d'État. Rappelle El País América. Hier, Jair Bolsonaro a défendu pêle-mêle la liberté d'expression. Elon Musk, le patron de X, anciennement Twitter, ou encore les personnes impliquées dans l'assaut contre le siège du pouvoir à Brasilia en janvier 2023. Ses alliés, dont un pasteur, s'en sont pris au juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, qui dirige la plupart des enquêtes contre l'ancien président brésilien. Ce même juge, au nom de la lutte contre la désinformation, explique El País América, a ordonné le blocage de plusieurs comptes de bolsonaristes sur X qui avaient tenté de discréditer le système électoral brésilien. Jair Bolsonaro, vêtu d'un maillot jaune et vert de l'équipe brésilienne de football, comme le montre la Folha de São Paulo, a demandé depuis le toit d'un bus ouvert à la foule d'applaudir Elon Musk, tandis que l'ancienne première dame, Michelle Bolsonaro, a elle prononcé un discours rempli de références religieuses, appelant à établir le royaume de Dieu sur Terre. Elle a également enjoint les femme à s'engager dans une politique féminine et non féministe, relève la Folha de São Paulo et El País América. Jair Bolsonaro continue, lui, de clamer son innocence. Il se dit victime de persécution, un peu comme Donald Trump aux États-Unis après l'assaut contre le Capitole.
Merci beaucoup, Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse internationale dans la matinale de Guillaume Herner. Et demain dans Culture Monde, suite de notre série sur les stratégies d'influence régionale de l'Iran, il sera question du plus fidèle des alliés de la République islamique, le Hezbollah. Et dans un instant, les midis de Culture.